L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Comment s'y retrouver dans l'histoire de la littérature? Qui est qui et qui a écrit quoi? Alors nos amis Lagarde et Michard sont assez loin et pour avoir une information, on pioche sur la toile, parcourant Wikipédia et finalement, l'impression de ne rien retenir l'emporte. Il faudrait un ouvrage rapide, ludique, informatif et marquant. Et c'est ce que vous avez réussi. Catherine Maury, bonjour.
Bonjour Christophe Maury.
Professeur de français en collège et lycée, vous avez commencé à écrire des histoires pour enfants, puis pour les parents perdus, le petit Larousse des grands écrivains français. Et puis plus tard, vous publiez chez Arène BD l'incroyable histoire de la littérature française, 80 000 exemplaires, excusez du peu, puis l'incroyable histoire de la mythologie grecque, et aussi un album sur l'affaire Tartuffe, qui est drôle, léger, passionnant et vrai. Je ne saurais que trop recommander ces livres que j'ai lus avec passion, en souriant. En riant parfois, la magie et le charme opèrent et la réussite est là, on retient tout. Alors Catherine Maury, comment travaillez-vous? On a l'impression que vous avez tout lu, tout entendu, tout retenu, tout digéré.
Oh, c'est quand même peut-être pas à ce point-là. Alors pour
la cagne est loin quand même.
La cagne est loin, c'est vrai, mais ce qui est passionnant, c'est que justement la littérature américaine, je ne connaissais pas beaucoup de choses à ce sujet. Et grâce à mon éditeur, donc Laurent Muller, qui a eu la bonne idée donc, de faire ce projet, eh bien, j'ai été associée à mes deux illustres parrains. En l'occurrence, Oliver Gallmeister, directeur des éditions Gallmeister, premier éditeur de littérature américaine en France, et François Guérif, donc faut-il encore présenter François Guérif, fondateur de la collection Rivage Art et celui qui a introduit James Ellroy en France. Et donc c'était pour moi...
Et alors comment vous avez travaillé avec eux?
Ils m'ont aidé déjà pour le sommaire, parce que le sommaire, évidemment, c'est une tannée. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la phrase qui est écrite en exergue, à savoir « on ne peut dire le tout de rien » dans James, qui était une protestation d'humilité bien utile, parce qu'effectivement, c'est très difficile de faire le tour d'une littérature aussi ample. Donc, ils m'ont beaucoup aidé pour le sommaire. Ils m'ont donné des conseils bibliographiques, notamment un livre vraiment très intéressant, qui s'appelle « La prairie perdue » de Jacques Cabot. Et puis, à chaque fois, ils me relisaient, ils étaient pleins de bienveillance, pleins d'enthousiasme. Donc, pour cette montée de l'Everest qu'a été l'écriture de ce livre, eh bien, c'était quand même très encourageant pour moi. Et je les en remercie encore aujourd'hui.
Alors, il était une fois l'Amérique, une histoire de la littérature américaine, toujours chez Arène BD, c'est le premier volume. Le 19e siècle, c'est un ouvrage essentiel parce que la littérature américaine est neuve, pas de livre avant le 18e siècle, et pour cause. Donc en vous lisant, on assiste à la naissance d'une littérature. Tout commence par James Fenimore Cooper, l'auteur du dernier des Mohicans. C'est le tout premier? Ou c'est le plus emblématique?
C'est celui qui donne à l'Amérique sa mythologie, donc c'est pas rien. George Sand, c'est peut-être elle qui parle le mieux de James Fenimore Cooper. Elle parle de son héros qui s'appelle Natty Bumppo, et qui donc qu'on retrouve dans le dernier des Mohicans, mais aussi dans tout le cycle romanesque de Fenimore Cooper. Et elle dit qu'à travers la voix de Natty Bumppo, eh bien c'est la voix de l'Amérique qui s'exprime. Et que dit cette voix? Pour être ce que nous sommes, nous avons dû ravager une grande nature et massacrer un grand peuple.
Alors Cooper se démarque des Anglais. À un moment, il dit à sa femme, l'âne batté d'anglais, vous excuserez ce pléonasme.
Oui, mais Cooper a cette volonté de fonder une littérature américaine. Voilà. Donc c'est lui qui va inventer la littérature du Far West. Puisque dans le dernier roman de son cycle, donc qui s'appelle La Prairie, son fameux héros Natty Bumppo, qui est octogénaire, va fuir dans les montagnes rocheuses pour s'écarter de la civilisation qui envahit tout, justement, qui ravage la nature, etc. Et donc, Fenimore Cooper fonde la littérature du Far West.
Alors, une des réussites de l'ouvrage, c'est que vous racontez à la fois la vie de l'auteur, et puis vous entrez dans le récit d'un de ses romans, ainsi du dernier du Mohican, on vient de l'évoquer, mais aussi de Huckleberry Finn, quand il s'agira de Mark Twain, par exemple, autre exemple. C'est important de rappeler le contenu d'un des ouvrages, plutôt que de donner l'ensemble d'une œuvre.
J'aime beaucoup ce dispositif qui met en parallèle la vie d'un auteur et le résumé de ses œuvres. Alors pourquoi? D'abord parce que la vie de l'auteur, elle a une valeur apéritive. Quand on, quand on, quand on connaît la vie d'un auteur, on a envie de connaître son œuvre. Ça, c'est la première chose. Une deuxième chose, c'est qu'il y a un plaisir de connivence. Lisez Martin Eden, mais lisez auparavant la vie de Jack London et vous verrez tout ce qu'il a mis de lui là-dedans. Hein, et bien sûr, hein, ça, y a une très très grande portée autobiographique. Et troisième point, je trouve que la vie de l'auteur, ça donne une caisse de résonance à l'œuvre. Christophe Maury, vous connaissez très bien le théâtre, vous connaissez parfaitement Un tramway nommé Désir, encore La ménagerie de verre. Allez voir La ménagerie de verre, mais lisez auparavant la vie de Tennessee Williams et...
Nous l'aurons dans le deuxième volume.
Dans le deuxième volume. J'anticipe un petit peu.
Alors après, chaque vie...
Attendez, oui. Laissez-moi, parce que j'aime bien cette histoire. Et donc et donc, vous verrez qu'en fait, à travers La ménagerie de verre, ce qu'il raconte, eh bien, c'est l'histoire de sa sœur qui a eu un destin tragique, puisqu'elle avait des troubles schizophréniques, qu'elle a été lobotomisée, et que c'est ce qu'on retrouve à travers l'héroïne de La ménagerie de verre. Donc, voilà, la biographie de l'auteur, c'est une caisse de résonance pour l'œuvre.
Alors après chaque vie, vous publiez un arbre, comme un arbre généalogique qui rassemble une famille d'auteurs. Ainsi, Cooper engendrera Edouard Abbey, Alain Lemay ou encore Herman Melville avec Moby Dick. Et alors, je me réfère à Melville et je vois un nouvel arbre qui nous envoie Jack London, Hemingway, Steinbeck et puis plus proche de nous, Cormac McCarthy qui est mort en 2023 ou encore Harry James qui engendrerait Paul Auster ou Francis Scott Fitzgerald. Alors, ces arbres sont très très importants pour notre culture à nous. C'est-à-dire que vous avez été finalement le jardinier de cette forêt.
Les jardiniers, les tuteurs qui ont tutorisé ces arbres, justement, c'était plutôt mes deux parrains, hein, parce que voilà, là c'était vraiment, il fallait avoir une connaissance très globale de la littérature américaine, et ils étaient plus à même de le faire, mais c'est vrai que c'est très intéressant, et puis ça donne envie d'ouvrir tous ces livres, ce qui est le but de cet ouvrage.
Et de mieux comprendre qui fait quoi et qui a inspiré qui, finalement.
Tout à fait.
Alors, entrons dans les sujets et les thèmes de cette littérature américaine du 19e siècle. Catherine Maury, si vous le voulez, vous le mettez très bien, non pas en exergue, mais de façon diffuse, tout au long de votre livre, Il était une fois l'Amérique, publié aux éditions Arène BD. Les thèmes, c'est le puritanisme, l'esclavage, la guerre de sécession et la question de l'unité nationale, jamais résolue, entre puritains, indiens et anciens esclaves. Alors, ceux qui mettent les indiens en avant, ça va être essentiellement Cooper et puis Thoreau.
Oui, Thoreau est un défenseur des Indiens. Thoreau, donc, c'est un transcendantaliste. Peut-être qu'il faut rappeler un tout petit peu
son
mouvement.
Parce que c'est un type incroyable. Il est né en 1817, il meurt en 1862.
Ouais.
Et c'est un peu le Jean-Jacques Rousseau américain.
Un peu, c'est vrai. Donc Thoreau est un transcendantaliste. Le transcendantalisme, c'est un mouvement qui est créé par Emerson, qui est un ancien pasteur unitarien, et c'est un mouvement qui repose sur une idée très positive, très optimiste, à savoir que l'homme est capable de découvrir par lui-même le bien et le mal. Ce qui sous-tend cette idée, c'est que une parcelle divine existe en chacun d'entre nous.
Pas idiot.
Non, c'est pas idiot, c'est une belle idée.
Ouais.
C'est une belle idée. Et puis surtout, dans cette Amérique qui est quand même majoritairement calviniste, et on sait à quel point la doctrine calviniste est sombre et pessimiste. Hein. Donc voilà, il y a un optimisme des transcendantalistes qui est très important et qui aussi a ses caractéristiques de cette nation américaine, je trouve. Qu'on retrouve par exemple dans le Yes Weekend de Barack Obama. Mais je pars très loin, je reviens à Thoreau.
Oui, mais vous le dites dans la BD, vous parlez de Barack Obama.
C'est vrai. Et donc Thoreau est un transcendantaliste. Et Thoreau, donc, puisqu'il peut par lui-même discerner le bien du mal, il va avoir des idées qui vont être très originales pour son époque. Alors, vous parlez des Indiens, et bien, par exemple, c'est un défenseur des Indiens, c'est un abolitionniste, un fervent abolitionniste, qui va défendre, par exemple, Brown quand il sera condamné à mort. Et c'est aussi un féministe, aussi, un petit peu.
Hein. Alors, il écrit « Un homme est riche de tout ce dont il peut se passer ».
Voilà, c'est dans Walden. C'est merveilleux, Walden. Ça, vraiment, je recommande cette lecture. Walden, c'est un traité de bonheur. L'idée, c'est que nous perdons tous nos vies à la gagner. Nous passons notre vie à travailler, et on travaille pourquoi ? Pour acquérir des biens qui nous rendent esclaves. Parce qu'on va s'acheter des boutons de porte en cuivre, ensuite il faudra les astiquer, on va s'acheter des bibelots, ensuite il faudra les épousseter. Donc en fait, toutes ces possessions nous asservissent. Thoreau fait le choix inverse. Il fait le choix de la pauvreté volontaire et de la liberté. Et donc il dit « je suis riche de tout ce que je n'ai pas ». De quoi est-il riche, Thoreau ? Il est riche d'heures d'été, il est riche d'instants présents, il est riche de moments de lecture. Il est riche de spectacles naturels.
Alors c'est un politique qui se retire de la société pour vivre la nature et trouver sa propre nature d'homme, mais vous avez un petit doute avec une grande flèche derrière un dessin en disant « Il n'était pas si éloigné de tout ça, hein. Il y avait quand même un bistrot pas loin.
» Alors, un bistrot, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait la ville de Concorde. Oui, c'est-à-dire qu'on présente souvent Soro comme un ermite,
ouais.
ce qui est faux, c'est-à-dire qu'il s'est retiré du monde, mais il ne s'est pas coupé du monde, puisqu'effectivement, cette maison qu'il se fait construire, cette cabane en bois qu'il construit lui-même,
ouais.
de ses mains, près de l'étang de Walden, est à 1,5 km de Concorde, et il se rend presque quotidiennement à Concorde.
Oui. Et alors, vous concluez que c'est un philosophe. C'est la seule fois où on a le mot philosophe dans l'ensemble du livre.
Alors, j'aurais pu l'utiliser pour d'autres. C'est le seul essayiste, enfin, vraiment, qui n'a écrit que des essais.
Ouais.
Hein. Ensuite, moi, je trouve qu'un Melville, par exemple, a une dimension un peu philosophique, hein, parce qu'il y a du Montaigne chez Melville, par exemple.
Oui,
hein.
Mais même théologique. Et alors là, vous avez des notes en bas de page qui nous rappellent le livre de Job, et
ouais.
on va y revenir. On sent que la Bible imprègne toute cette littérature-là.
J'ai travaillé pour ce premier tome avec la Bible sur mon bureau.
Ouais.
Je devais constamment me référer à la Bible. Oui, ouais, ça c'est très clair. Et surtout pour Moby Dick, alors là, qui est truffé de références bibliques.
Alors, le puritanisme, autre sujet, on a Hawthorne, mais aussi Edgar Poe, dont L'Arbre monte jusqu'à Stephen King, en passant par Lovecraft. On a Dickinson, incroyable, Emily
incroyable,
Dickinson.
Incroyable.
Portrait de la vieille fille, morte à 55 ans.
Ah, c'est pas gentil, vieille fille.
qui sort de sa chambre de jeune fille qu'elle n'a pas quittée pendant au moins 14 années,
oui.
qui est habillée tout en blanc.
Oui.
Mais enfin, c'est la vieille fille, on est d'accord.
Non, c'est pas moi, je dirais pas ça.
Non, c'est votre rêve d'enfant.
Non, mais c'est une amoureuse, Emily Dickinson. C'est une amoureuse. C'est une amoureuse des gens, c'est une amoureuse de la littérature, c'est une amoureuse de la nature. Alors, c'est vrai qu'elle a un destin incroyable. C'est-à-dire que c'est une vie minuscule et qui est tellement minuscule qu'elle en devient énorme.
Alors, bon, enfin, c'est pas Saint-Thérèse de Lisieux non plus.
Non. Alors, rappelons brièvement de quoi il s'agit. Donc, Emily Dickinson, d'une part, c'est quelqu'un donc, qui vit dans une famille très puritaine.
Riche.
Oui, voilà, une famille bourgeoise, c'est vrai, et qui va être tout le temps en marge de cette ferveur religieuse. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, quand elle est au pensionnat et qu'elle est jeune, à un moment donné, la directrice demande à toutes les jeunes filles qui sont assises de se lever pour celles d'entre elles qui veulent faire ce qu'on appelait une conversion. Une conversion n'étant pas le passage d'une religion à une autre, mais le passage d'une foi tiède à une foi. Une fille se lève, sauf Emily Dickinson. Il faut avoir un certain... Ouais, voilà. Donc, il y a ça. Il y a le fait aussi qu'elle va effectivement refuser de se marier. Elle a cette phrase qui est magnifique, où elle dit « L'homme du matin a pour sa florale fiancée la délicatesse de la rosée, mais l'homme du midi fait ployer la tête de son épouse sous son soleil ardent. » Donc,
Dieu.
Elle se méfie des hommes. Et alors, ensuite, donc, ce qu'il y a aussi d'incroyable, c'est qu'à partir de 30 ans, elle va refuser de sortir de chez elle. Non seulement elle refuse de sortir de chez elle, mais quand un visiteur vient la voir, elle refuse de descendre l'escalier.
Elle se cache.
Mais oui, c'est-à-dire qu'elle elle reste en haut de l'escalier et elle lui parle « Oh, je suis tellement ravie de vous revoir !» Et en plus, elle va s'habiller en blanc.
Oui.
Enfin, on est quand même dans l'Amérique puritaine. Tout le monde a en tête les films, les tableaux. Toutes les femmes sont en noir ou en couleur sombre. Emily Dickinson s'habille en blanc. De qui était-elle l'épousée ?
Ben, c'est l'éternel marié. Alors, ce qui est nouveau dans votre bande dessinée, « Il était une fois l'Amérique », par rapport aux autres que vous avez publié, l'histoire de la littérature française ou de la mythologie, c'est que là, vous faites intervenir des experts qui sont du 21e siècle et qui sont à l'intérieur. Alors, pour Emily Dickinson, il y en a trois. Alors, la première qui dit « Cette claustration s'explique par une phobie, le regard des autres la terrifiait. » L'autre qui dit, répond « Pas du tout. Emily Dickinson s'est retirée du monde à la suite d'une peine d'amour. » Enfin, il y a le troisième expert, un homme cette fois-ci, qui dit « La réponse est bien plus simple. Toute la famille Dickinson était connue pour ses excentricités. Le mode de vie d'Emily n'en était qu'une de plus. » Donc c'est assez chouette d'avoir ces experts du 21e siècle qui interviennent dans la BD, qui sont caricaturés, enfin pas caricaturés, ils sont bien dessinés d'ailleurs.
Ouais. Par Jean-Baptiste Eustache.
Et ils sont identifiables.
Alors, en l'occurrence, là, non, mais très souvent, ils sont nommés. Très
oui.
souvent, ils sont nommés. Et voilà, et à ces questions, hein, vraiment à ce mystère qu'est Emily Dickinson et qui est vraiment devenu mythique, ce serait malhonnête d'apporter une réponse univoque. Donc c'est pour ça que ce qui était intéressant, justement, c'était cette pluralité des voix.
Alors, Walt Whitman, né en 1819, mort en 1892. Alors lui, c'est le poète. Il est encore aujourd'hui adulé, adoré par des groupes de lecteurs qui se réunissent dans un culte véritable. C'est un peu comme une secte, hein ?
Un peu.
Et alors, comme vous y allez, une double page, les 12 propositions, les feuilles d'herbe. Et il a une place si importante dans les littératures américaines ?
Ah oui, il est très important. Il est très important.
Et là, il a une place d'honneur.
Ah hein. oui. Mais c'est le père de la littérature américaine, le père de la poésie américaine. Il est considéré comme tel. Regardez le Cercle des poètes disparus, là, qui d'ailleurs est mis au théâtre. On fait constamment des références à Whitman.
Ouais.
Et alors Whitman, ce qui est merveilleux, moi, ce que j'adore chez lui, c'est que la première fois qu'il publie donc son recueil le plus célèbre qui s'appelle Feuilles d'herbe, c'est un recueil anonyme. Son nom n'apparaît pas sur la couverture. Et simplement, quand on ouvre la première page, il y a le corps de Whitman qui apparaît, c'est-à-dire qu'il y a une photo de lui. Et un peu plus loin, dans le... Ah, alors, bah, vous êtes très précis, Christophe.
Mais non, c'est vous qui l'êtes dans votre texte.
Eh bien, on a un autoportrait, ou alors là, il donne son nom. Et qu'est-ce qu'il dit ? Quel est cet autoportrait ? Walt Whitman, un cosmos, fort en gueule, sensuel, charnel, mangeur, buveur, baiseur. On est quand même dans l'Amérique puritaine du milieu du 19e siècle. Hein, et voilà le corps de Whitman qui explose.
Pas sentimental, pas au-dessus des autres hommes, ni des autres femmes, ni à part d'eux, ni plus immodeste que modeste.
Voilà.
Vous aimez ces tempéraments forts en gueule, Catherine Maury ?
Oui, c'est vrai que c'est merveilleux. Et puis aussi, voilà, il se dit un caresseur de vie, où qu'elle bouge. C'est-à-dire que toutes ces dernières années, toute la critique whitmanienne a essayé de savoir quelle était la sexualité de Whitman. Est-ce qu'il était homosexuel ? Est-ce qu'il était hétérosexuel ? Est-ce qu'il était bisexuel ? Est-ce qu'il était autosexuel ?
On s'en fout, il était
On
vivant.
On s'en fiche complètement, il était vivant, mais tellement vivant. Et son œuvre, ce qui est certain, c'est qu'elle est pansexuelle. Hein. C'est-à-dire qu'elle est sensuelle du début jusqu'à la fin.
Alors, les puritains sont sur la 7e version du recueil. Et puis, d'un petit livret, l'ouvrage va grossir et va devenir ce que vous appelez une œuvre continent.
Mais oui, c'est ça qui est merveilleux aussi. C'est que cette œuvre, Whitman ne cesse effectivement de l'augmenter toute sa vie durant. Il l'achève en 1891. En 1891, c'est la fin de la conquête de l'Amérique. Mais la fin de la conquête de l'Amérique, c'est un an auparavant, c'est 1890. Donc, c'est une œuvre qui a grandi et qui a fini sa croissance en même temps que l'Amérique. Donc, c'est vraiment une œuvre continent.
Herman Melville, maintenant l'homme qui a vécu chez les cannibales, il va mettre toute sa vie à devenir un écrivain, au sens où on va le considérer comme un écrivain et non plus comme l'homme qui a vécu chez les cannibales. C'est un destin incroyable, encore un self-made man. C'est une caractéristique de cette littérature.
Oui, ce sont beaucoup des autodidactes pour l'Amérique, qui est un pays neuf et que les conditions de vie sont très dures. Donc Melville, c'est quelqu'un qui naît avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il naît dans une famille aristocratique, dans une famille fortunée. Et là-dessus, eh bien, il va y avoir deux tragédies. D'abord, son père va être ruiné. Comme le dit Oscar Wilde, son père vivait tellement au-dessus de ses moyens que ses moyens et lui finissaient par vivre deux existences complètement séparées. Et deuxième catastrophe, deuxième tragédie, eh bien, il meurt, laissant donc sa femme seule avec 8 enfants à charge, un tombereau de dettes. Et alors là, Herman Melville, il va devoir se retirer la cuillère d'argent de la bouche et se mettre à travailler. Et c'est là que tout commence, parce qu'il va notamment travailler sur un baleinier, il a 21 ans. C'est épouvantable, ce sont les bouchers de l'océan. Vous partez pour des campagnes de pêche dont vous ne connaissez pas la durée. C'est-à-dire qu'on ne revient que quand les cales sont pleines. Ça peut durer 3 ans, ça peut durer 4 ans, ça peut durer 6 ans. Dans le cas de Melville, ça va durer 6 mois, c'est-à-dire qu'il déserte avec un copain. Et alors là où c'est ballot, c'est qu'il déserte sur une île de Polynésie, donc aux Marquises, où il y a une tribu cannibale. Donc bien évidemment, le projet de Melville et de son ami, c'est d'éviter cette tribu cannibale. Et bien évidemment, il va se retrouver au sein de cette tribu.
Et il ne sera pas mangé.
Et il ne sera pas mangé, mais toute sa vie durant, ce sera l'homme qui a vécu chez les cannibales.
Mais
ce ne sera pas l'auteur de Moby Dick. Moby Dick passe inaperçu.
Alors, on a tout à fait esquissé tout à l'heure l'idée de la Bible. Vous parliez de la Bible qui était sur votre table de travail parce que vous deviez vous y référencer sans arrêt. Il y a énormément, dans Moby Dick, il y a énormément de passages qui sont à la fois Job, le livre de Tobie et Sarah. Enfin, il est complètement imprégné de religion.
Bien sûr.
D'où ça vient, ça? De sa famille?
De sa mère. Sa mère était calviniste et donc il a eu une éducation très religieuse, très comme il faut, puisqu'encore une fois, c'était une famille bourgeoise. Et ensuite, si vous voulez, c'est ça que j'adore, moi, chez Melville, c'est qu'il y a du Montaigne chez lui. Ensuite, donc, il y a ce voyage en Polynésie qui va durer longtemps, parce qu'après ce séjour aux Marquises, où effectivement il n'est pas mangé, eh bien il va rester encore dans d'autres îles, et quand il revient, il a complètement changé son regard sur la société occidentale. Il interroge le rôle de l'argent, parce que ben, aux Marquises, il n'y a pas d'argent, il interroge tous les besoins superflus, il interroge le travail, et voilà, donc son ethnocentrisme, il le remise au placard. Et alors, vous me parliez de la religion, qu'est-ce que Moby Dick? Moby Dick, premier...
Une baleine.
Ouais, un cachalot. Premier niveau de lecture, c'est l'histoire d'une vengeance. C'est l'histoire du capitaine Ahab qui, comme il le dit, s'est fait démater par Moby Dick. C'est-à-dire que sa jambe a été broyée, avalée par le cachalot géant. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Deuxième niveau de lecture, Moby Dick est sans cesse appelé durant le roman le Léviathan. Qu'est-ce que le Léviathan? Eh bien, bien évidemment, c'est ce monstre qui, dans la Bible, exprime la toute-puissance divine, et Dieu met en garde celui qui oserait s'en prendre au Léviathan. Or, le capitaine Ahab, c'est celui-ci. C'est cet homme qui dit « Je frapperai le soleil s'il m'insultait ». Donc, il y a une espèce de combat prométhéen, il y a une espèce de combat contre Dieu. Et puis, il y a aussi, si vous voulez, c'est aussi le Dieu caché des calvinistes. Le capitaine Ahab dit « Je veux voir ce qui... Tout est un masque de carton, je veux voir ce qu'il y a derrière les apparences, je veux voir ce qu'il y a derrière cette baleine ».
Alors, on a envie de relire Moby Dick ou de lire Moby
oui.
Dick ou de découvrir.
Mais
en tout cas,
c'est pour ça que j'écris ce livre.
On a envie de se plonger dans tous les auteurs. Vous terminez avec Jack London, d'une intelligence exemplaire qui brûle toutes les étapes de l'université. Il reprend ses études à 19 ans quand les élèves n'en ont que 14. Il va essuyer 310 refus d'éditeurs avant de publier son premier livre. Et Jack London.
Ah ouais. Jack London, ben oui, Jack London. C'est un parcours à mi-distance entre le conte de fées et le roman noir, Jack London, et c'est exactement ce qu'on retrouve dans son roman autobiographique Martin Eden. C'est-à-dire que Jack London, alors là encore, c'est un autodidacte. Hein, c'est quelqu'un qui naît dans une famille pauvre. C'est quelqu'un qui va se mettre à travailler dès l'âge de 10 ans. Il va être balayeur, il va être vendeur de journaux, il va être ramasseur de quilles dans les bowlings, pirate, hein, puisqu'il pille les parcs à huîtres. Et puis, alors, ce qui est très malheureux, c'est que... eh bien, il se met à boire aussi très jeune. Hein. C'est, vous savez, il y a encore là une
dès
phrase...
L'enfance.
Pardon ?
Dès l'enfance.
Mais dès l'enfance. Mais la vie est tellement dure. Il va travailler dans des usines 18 à 20 heures d'affilée. Comment voulez-vous tenir ? Enfin, c'est Oscar Wilde qui dit... vous savez, on dit souvent l'alcool, les fléaux des classes laborieuses, et Oscar Wilde répond le travail, le fléau des classes qui boivent. Il faut bien trouver un dérivatif. Donc il a cette enfance épouvantable, vraiment. Et puis après ça, il y a la ruée vers l'or, c'est aussi tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'à travers ce livre, ce qu'on raconte, c'est aussi l'histoire de l'Amérique.
Oui, parce qu'il part en étant persuadé de revenir très riche, comme tout
bien
le monde,
sûr,
d'ailleurs.
Bien sûr. Et il part avec son beau-frère qui vend tout ce qu'il a pour réunir le matériel nécessaire pour faire cette expédition. Donc, il arrive au Klondike, après un voyage éprouvant, c'est l'hiver, il dit « Une nuit au Klondike, ça vaut 40 jours dans un réfrigérateur ». Et puis, ensuite, donc, le printemps revient, seulement est-ce qu'il trouve une pépite ? Aucune. Et à la place de pépite, eh ben, il récolte un bon gros pépin, à savoir qu'il a le scorbut. Hein, bien sûr, parce qu'il n'a pas pu avoir de vitamine C. Simplement, il revient donc sans une once d'or sur lui, mais avec dans la tête des histoires en or. Et là, ça va être sa fortune. Donc ça va être le début du conte de fées qui va se terminer en roman noir, puisque Jack London est alcoolique. Hein, il est rattrapé par ça et par la déprime.
Et puis une fascination pour Marx.
Et une fascination pour Marx et aussi pour Spencer, donc c'est un petit peu antagoniste. Hein. c'est à la fois un darwiniste social et un socialiste, donc c'est un peu compliqué.
Alors moi j'aime votre style léger. Ainsi, avant de rejoindre les îles Salomon, vous écrivez « Il, Jack London, se dirige vers une destination bien moins ukulélé et fleurs tressées que les précédentes
ouais. ». Ah bah oui, c'est sûr que les îles Salomon, c'était compliqué parce que c'était des îles où on allait chercher de force des travailleurs. Hein. C'était un système, l'esclavagisme était aboli, mais enfin bon, il y avait des navires négriers, on les appelait encore comme ça. Et donc on allait chercher des travailleurs pour les faire travailler sur les plantations contre leur gré. Donc Jack London, il est parti là, peut-être animé par ce qu'avait écrit Twain dans Tahiti, je ne sais pas, enfin, à la recherche d'un Éden, et il trouve un monde colonisé en pleine mutation.
Mark Twain aussi, on pourrait s'arrêter sur le personnage, parce que c'est extraordinaire, et vous nous racontez l'histoire du Club Erifine. Merci infiniment, il faut saluer la rigueur de l'ouvrage, il n'est qu'à parcourir les notes en fin de le livre pour s'apercevoir que beaucoup de répliques sont extraites de romans, de poèmes, d'œuvres, et l'on comprend que sous couvert d'une légèreté, d'une simplicité, vous vous appuyez sur une connaissance approfondie. Encore une fois, c'est une grande réussite. Merci Catherine Maury.
Merci.
Je rappelle votre nouvel ouvrage, Il était une fois l'Amérique, volume 1, publié chez RNBD. J'ai hâte de lire la suite, vous l'aurez compris, c'est pour l'automne.
Oui, c'est pour le mois de septembre.
Avec peut-être le grand auteur Saint James. Merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, à François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, nous irons au cinéma voir le Molière imaginaire. Bob Marley est vivant. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.